une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel? Territoire occupé.
Bienvenue sur cette antenne pour un nouvel épisode de Billets d'Afrique en ce vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulièrement difficile à aborder puisque je vous propose une émission sur le Congo. Pas le Congo à l'ancienne version, mais bien la RDC qui est en proie à un conflit depuis une vingtaine d'années. Au quotidien, c'est un terrible massacre qui se déroule dans l'est du pays et dont il est très difficile de parler. Le bassin Congo est jugé comme la terre la plus riche de toute la planète en ressources naturelles et ses richesses du sous-sol sont peut-être plus une malédiction qu'une bénédiction. Puisque entre les conflits armés et la pauvreté, les habitants, eux, n'en voient pas le bout. Diamants, pétrole, or, cuivre, cobalt, cassitérite, coltan. Moi, j'ai voulu me pencher sur la question pour pouvoir nous éclairer et je me suis rendu compte que la difficulté principale à comprendre ce qui se passe dans cet immense pays d'Afrique, c'est notamment le manque d'informations. Une partie des zones est aux mains de ce qu'on appelle les rebelles, différents groupes armés, et les personnes qui y vivent ont très peu l'occasion de témoigner. Une autre partie des zones impliquées dans le conflit est sous le contrôle de l'armée gouvernementale, et il n'est pas non plus aisé de comprendre si la parole des personnes est totalement libre. Il y a plein de sons de cloche différents, et selon les reporters que vous écoutez, vous pouvez entendre des versions assez différentes. C'est là que l'information n'est pas quelque chose d'objectif. Aujourd'hui, donc, je vais tenter de vous raconter ce que moi, j'ai compris de ce qui se passe en RDC, en République démocratique du Congo, ne prétendant pas du tout y avoir la vérité. Et surtout, des personnes congolaises m'écoutant pourraient considérer que je prends trop le parti du M23 en voulant simplement expliquer peut-être les origines du conflit. Donc, de quoi on parle? Peut-être que vous avez entendu parler de ce qui se passe en RDC en suivant simplement le football, puisque la CAN d'Afrique, qui est donc la Coupe des Nations africaines, la plus grosse compétition sportive du continent, en demi-finale, il y avait l'équipe de la RDC et les joueurs ont décidé de faire un geste très symbolique en se mettant les doigts sur la tempe comme s'ils étaient braqués avec un gun et l'autre main sur la bouche pour dénoncer le silence de la communauté internationale. Cette image a fait réagir et elle a été le point de démarrage de tout un tas de reportages, mais en réalité ce n'est pas depuis la CAN d'Afrique qu'il y a des milliers de morts. On parle de 6,9 millions de personnes déplacées, on parle de centaines de milliers de morts, c'est en fait inchiffrable. On est donc sur, selon l'ONU, le plus grand conflit que la planète ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour les traits généraux. Et maintenant, un peu d'histoire pour comprendre ce qui nous amène au Congo à parler de massacre. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a une région dont vous avez sûrement déjà entendu parler qui s'appelle la région des Grands Lacs. Son frontalier à la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont deux pays bien plus petits en taille, mais dont l'histoire est intrinsèquement mêlée à celle de la RDC. Au Rwanda, dans les années 90, de nombreuses tensions se font sentir entre une population Tutsi et une population Hutu vivant sur place. Ces tensions vont se transformer en conflit et ce conflit en un affreux génocide durant l'année 1994 où entre avril et juillet et en seulement 100 jours, les Hutus auront fait près de 800 000 victimes. Dans les racines de cette guerre civile génocidaire, il y a des années de propagande idéologique. Un mouvement politique appelé « Mouvement Hutu Power », extrémiste basé sur l'ethnicité des personnes et dont le président de l'époque fait partie, a entraîné la population Hutu, même modérée, et les a pris dans une mécanique suprémaciste et discriminatoire à l'encontre de la minorité du pays, les Tutsis. À la suite d'un crash de l'avion présidentiel dans lequel le chef de l'État est mort, les membres du gouvernement et les proches du président décédé ont pointé du doigt cette ethnie. Des milices se sont organisées rapidement, alors que passaient à la radio des messages haineux appelant à tuer dans le but de faire payer les conséquences de la mort aux Tutsis désignés coupables. La suite, vous vous en doutez, c'est l'enfer. L'enfer largement documenté aujourd'hui, mais qui continue d'apporter, année après année, ces nouvelles révélations sur les massacres. Les personnes sur place ont fui vers les pays voisins. Ils ont fui notamment vers la RDC et vers l'Ouganda. Une partie des gens qui ont fui étaient des Tutsis, mais une autre partie des gens qui ont fui étaient des génocidaires. Et oui, à la fin du génocide, un parti politique Tutsi reprend le contrôle de Kigali, la capitale. À la tête du Front patriotique rwandais, celui qui a mis fin au génocide, donc Paul Kagame, qui est depuis 2000 président du pays, le Rwanda. À la fin des massacres, des millions de Rwandais Hutus, cette fois-ci, ont fui aussi vers les pays voisins pour éviter les représailles menées par Paul Kagame. La France, censée mettre fin au génocide avec l'opération Turquoise, s'est semble-t-il rendue coupable de complicité à plus d'un endroit pendant les massacres, soit par son silence et son inaction, soit par sa lenteur, dont on peut se poser la question de savoir si elle était volontaire. Ensuite, derrière, il y a une région entière à rebâtir et il faut composer avec, en RDC, les personnes Tutsis qui n'ont plus rien et les personnes Hutu qui n'ont pas plus, mais qui les ont persécutées. Au jour d'aujourd'hui, la région des Grands Lacs est toujours secouée par ces réminiscences, par ces haines qui n'ont pas été résolues, par ces personnes qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans des camps de réfugiés, dans le dénuement le plus total parfois, et qui d'autrefois ont pu s'installer dans la région et enfin vivre quelque part en paix. Il s'avère qu'il y a une autre composante aux questions ethniques à prendre en compte pour parler du Congo, et c'est les ressources. C'est là que notre émission s'intéresse à la RDC, le sous-sol du Congo est le sous-sol le plus riche que porte notre planète. Faisons donc un petit bilan. Vous mettez dans la même cocotte minute des génocidaires et des persécutés, des gens dans tous les cas déplacés et meurtris, des personnes en exil qui se sont rebâties une vie quelque part, et le sous-sol le plus riche de la planète. Vous secouez tout ça et vous y rajoutez les intérêts économiques des puissances étrangères et des compagnies, et vous avez un horrible bordel. Ces 30 dernières années, les ONG estiment que 6 millions de personnes sont mortes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce chiffre est invérifiable, il est impossible de réellement compter le nombre de personnes tuées. En tout cas, 6 millions, c'est juste abyssal. Ce chiffre ne veut même rien dire tellement il est grand. Il y a de nombreux groupes armés aussi qui se sont installés dans le coin. 120 groupes armés recensés. Et là-dedans, il y a aussi tout un tas de gens motivés par l'argent, puisque payés par des groupes étrangers qui sont en réalité, de loin avec des prête-noms, des multinationales qui ont des intérêts miniers dans la région. La question est d'autant plus complexe que l'intégrité territoriale du Congo est mise à mal par ce conflit qui se passe près de sa frontière. Il y a donc une énorme quantité de Congolaises et de Congolais qui soutiennent l'action du gouvernement, qui lutte contre les groupes armés et qui ne voient là-dedans qu'une agression contre la souveraineté de leur pays. Il est question de nationalisme et même d'ethno-nationalisme, comme il a pu être question pour la guerre civile en Côte d'Ivoire avec le concept d'ivoirité. Ici, le président Tshisekedi vient manipuler l'idée d'une population rwandophone, comprenez, qui parle une langue parlée au Rwanda, et donc une population étrangère, un corps étranger envahisseur qui viendrait foutre le bordel. Le gouvernement, au passage, utilise une partie des milices de la région pour combattre le M23. Il y a donc des groupes armés embauchés pour combattre d'autres groupes armés. Le M23, c'est le principal groupe armé qui fait la guerre contre l'État du Congo. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. À la tête de ces groupes armés, comme je l'ai dit, différentes motivations et différentes analyses de ce qui se joue. Certains se voient défendant le pays contre le pays voisin, donc certains sont là pour protéger la population d'un groupe armé dangereux, d'autres protègent leurs proches et d'autres encore leurs intérêts économiques, donc liés à l'exploitation minière. Parce que qui est-ce qui finance les groupes armés? L'exploitation minière illégale. Mais soyons honnêtes, qui finance l'État du Congo? Tout autant l'exploitation du sous-sol. Le résultat sur place, ce sont des combats quotidiens entre des différentes factions et des victimes civiles tuées, violées ou blessées ou forcées à l'exil.
Pokitoko mwase utakasanga mwema Pona peso bongo poni kitoko Yobo saba biefe na ganyo soye.
Attardons-nous maintenant sur le M23. Vous avez déjà entendu cet acronyme en passant, en écoutant le journal des RFI, mais vous ne l'avez pas compris. Qu'est-ce que le M23? M23, pour Mouvement du 23 mars, c'est un groupe militaire formé il y a plus d'une décennie, lui-même né d'un autre groupe rebelle qui a combattu le gouvernement de la RDC entre 2006 et 2009. Ce groupe s'appelait la CNDP, mais ce n'est pas très important pour aujourd'hui. Le 23 mars 2009, avec le CNDP, il y a eu un accord de paix. Et cet accord de paix prévoyait que le gouvernement intègre les membres du CNDP à l'armée régulière. Comme une forme d'amnistie, leur reconnaître une légitimité et surtout permettre à ce groupe une réelle existence politique en devenant un parti reconnu dans le pays. Là où le bât blesse, c'est que certains combattants n'ont pas été intégrés. Ils ont donc estimé que le gouvernement de la RDC n'a pas respecté les modalités. Les membres du M23 sont majoritairement Tutsis. Ils sont issus en grande majorité de cette région des Grands Lacs. Comme je vous l'expliquais, selon les accords de 2009, une partie des rebelles devait être intégrée et une partie l'a été. Mais la question minière n'étant jamais bien loin, voilà qu'une partie des militaires, anciennement rebelles donc, ont été accusés d'abuser de leur position et de leur connaissance de la région pour contrôler le trafic minier. De notoriété publique, l'armée de la RDC étant corrompue, on doute que ce soit les seuls à faire de telles manœuvres. Mais bon, la conséquence, c'est que le gouvernement a délocalisé les soldats soupçonnés, qu'ont estimé à ce moment-là qu'il fallait se mutiner. C'est comme ça qu'on en arrive à un groupe de gens pas contents, qui sont armés, qui sont d'anciens militaires, qui ont été dans l'armée régulière, mais qui sont aussi issus d'anciens rebelles. Bref, vous suivez. En gros, ce groupe paramilitaire s'est formé, reformé, pourrait-on dire, avec l'appui, en tout cas selon plusieurs rapports d'ONG et de rapports de l'ONU, de 2013 et de 2022, il a été en partie créé et dirigé par le pays voisin dont nous parlions tout à l'heure, le Rwanda. Et oui, CQFD, le Rwanda a des liens avec le M23 qui sont multiples. M23 nie complètement ces liens et il dit que le seul appui que le Rwanda fait, c'est d'accueillir depuis des décennies des réfugiés, à son tour, Tutsis, eux, qui fuient la RDC. Mais ce petit pays de la région des Grands Lacs ne peut pas être de toute façon tenu seul responsable de l'existence ni de l'armement du groupe rebelle congolais, bien qu'on puisse sérieusement douter de son innocence. Il faut regarder les intérêts économiques que recèle cette région. L'est du pays, comme je vous le disais, est immensément riche. La richesse de son sous-sol, cumulée à la violence des combats et notamment la violence du M23, a transformé la vie de centaines de milliers d'habitants en enfer. Il y a eu des milliers de jeunes garçons enrôlés sur les décennies qui viennent de se passer. Il y a eu des viols de masse. Il y a eu beaucoup de pillages, même du harcèlement à des endroits. La région du Nord Kivu est stratégique par sa richesse souterraine. Elle est aussi stratégique parce que c'est un endroit de passage. Il y a les frontières et c'est un endroit de passage de l'aide humanitaire, des exports et des imports de chacun des pays. Mais il reste donc cette dimension très importante qui est la dimension minière, qui est intéressée par les ressources du sous-sol. Beaucoup, beaucoup d'acteurs et parmi eux, évidemment, le gouvernement congolais lui-même. Je vous lis un article plus tard dans lequel le gouvernement choisit d'aller à fond dans l'extractivisme en disant que de toute façon, la protection de l'environnement et notamment de la forêt équatoriale, là où vivent les gorilles, ça ne fait pas vivre les gens économiquement. Et donc, plus important que de sauver la planète, il y a relancer l'économie de la RDC. Et pour ça, ils ouvrent à l'exploitation de nouveaux puits de pétrole. C'est dire si le gouvernement lui-même est dans l'extractivisme total. La République démocratique du Congo, RDC, qui abrite l'une des plus grandes forêts tropicales primaires au monde, a mis aux enchères, le 28 juillet 2022, de vastes parcelles de terrain dans l'espoir de devenir le nouvel Eldorado des investissements pétroliers. Ces parcelles, destinées au forage pétrolier et gazier, s'étendent jusque dans le parc national des Virunga, dans l'est de la RDC, la plus importante réserve naturelle de gorilles au monde. Mais aussi dans les tourbières tropicales, qui absorbe des quantités considérables de carbone, l'empêchant ainsi d'atteindre l'atmosphère et de concourir au réchauffement climatique. Si ces régions sont transformées en zones de forage, il faut s'attendre à une catastrophe climatique mondiale face à laquelle nous serons impuissants, met en garde Irène Wabiewa, qui supervise depuis Kinshasa les campagnes de Greenpeace pour la forêt du bassin Congo. C'est un revirement complet, 8 mois seulement après la participation du président Félix Tshisekedi à la COP26 de Glasgow et à la signature d'un accord sur 10 ans pour la protection de la forêt tropicale du bassin Congo. C'est le deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. Le gouvernement donne donc son feu vert à de nouveaux forages pétroliers au beau milieu d'écosystèmes fragiles. L'accord prévoyait, sur les 5 premières années, des investissements internationaux à hauteur de 500 millions de dollars à destination de la RDC, l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais depuis sa ratification, la communauté internationale a redéfini ses priorités immédiates. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait s'envoler le cours du pétrole et a conduit Américains et Britanniques à déclarer des embargos, à plus ou moins long terme, sur le pétrole et le gaz russe. Les Européens ont quant à eux adopté un plan de réduction volontaire de la consommation de gaz au sein de l'Union. En parallèle, la Norvège, connue pour être l'un des chefs de file de la protection des forêts, augmente sa production de pétrole et envisage de réaliser de nouveaux forages en mer. Joe Biden, qui s'était engagé au début de son mandat à sortir le monde de la dépendance aux combustibles fossiles, s'est récemment rendu en Arabie Saoudite où il a demandé une hausse de la production pétrolière. La RDC a pris acte de ces événements, explique Tosim Panumpanu, conseiller du ministre des hydrocarbures et négociateur du pays sur les questions environnementales. La mise aux enchères de ces parcelles a pour seul objectif de financer des programmes de lutte contre la pauvreté, assure-t-il, et de générer de la croissance économique dont le pays a désespérément besoin. Voilà notre priorité. Notre priorité n'est pas de sauver la planète. Kinshasa avait annoncé la procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution des permis d'exploitation au mois de mai 2022 dans une vidéo publiée sur Twitter. Chevron et Total Energy, les géants américains et français du secteur, étaient mentionnés dans le message accompagnant la vidéo. Cette démarche a suscité l'indignation des défenseurs de l'environnement. Le gouvernement a par ailleurs doublé la mise, portant de 16 à 30 le nombre de blocs à attribuer. 27 sont destinés au forage pétrolier, 3 au secteur gazier. Le groupe Total Energy n'aurait pas l'intention de se porter acquéreur, nous assure-t-on en interne. De nombreux dirigeants africains dénoncent le deux poids deux mesures révélé par cette situation. Comment les pays occidentaux qui ont bâti leur richesse sur l'exploitation des combustibles fossiles au prix d'émissions toxiques responsables du réchauffement climatique peuvent-ils exiger des États africains qu'ils renoncent à leurs propres réserves de charbon, de pétrole et de gaz pour protéger le reste du monde? Une autre interrogation taraude les nombreux habitants dont la survie dépend de l'abattage des arbres pour le commerce ou la cuisine. S'il décide de protéger ces puits de carbone, d'une valeur inestimable pour l'ensemble de la planète, qu'obtiendront-ils en échange ? Après des décennies de colonialisme et de mauvaise gestion, l'État doit désormais faire prévaloir les intérêts congolais sur ceux du monde, estiment de nombreux responsables politiques locaux. En tentant d'ériger son pays en rempart contre le réchauffement climatique, le président Tshisekedi s'est heurté à quelques difficultés politiques. À l'élection présidentielle suivante, qui a eu lieu l'année dernière, l'ambiance était agitée. Impossible de savoir quels sont les montants exacts en jeu pour ces parcelles. En mai, le ministre des Hydrocarbures, Didier Bundibou, a annoncé que la RDC, qui produit actuellement 25 000 barils de pétrole par jour, serait en mesure d'intensifier sa production jusqu'à 1 million de barils. Au cours actuel, cela représente 32 milliards de dollars par an, soit plus de la moitié du PIB national. Lorsque les Occidentaux refusent de les soutenir, les pays détenteurs de ressources naturelles devraient s'inspirer du modèle amazonien, assure Tosim Panumpanu. En 2007, Rafael Correa, alors président de l'Équateur, avait créé un fonds que la communauté internationale pouvait alimenter pour empêcher les forages pétroliers dans le parc national Yasuni, l'une des plus grandes réserves de biodiversité au monde. L'État avait fixé un objectif d'environ 3,6 milliards de dollars. Mais plusieurs années plus tard, la dotation du fonds ne dépassait pas 13 millions de dollars. Le gouvernement équatorien a donc décidé en 2013 de donner son feu vert à la prospection. Et les forages ont débuté 3 ans plus tard. Les scientifiques estiment toutefois que l'exploitation de ces parcelles pourrait entraîner la destruction de précieuses zones de forêt tropicale et de tourbières qui constituent l'un des derniers remparts de la planète face à l'augmentation des températures. Le recours à l'imagerie sismique pour repérer les gisements de pétrole nécessiterait en effet le déboisement de longs sillons de forêt et le déclenchement de charges explosives. Les déchets de la production pétrolière qui contiennent du sel et des métaux lourds risqueraient par ailleurs de bouleverser l'équilibre de tout l'écosystème du bassin Congo, comme c'est le cas en Amazonie. La construction des routes nécessaires à l'exploitation des blocs pétroliers et gaziers provoquerait en outre l'installation de nouveaux habitants dans de vastes portions de forêt équatoriale jusqu'alors peu peuplées et donc une intensification de l'exploitation forestière. Enfin, les experts craignent un assèchement des tourbières qui se traduirait à terme par leur décomposition et la libération dans l'atmosphère du carbone qu'elles renferment. Cette libération massive et rapide de carbone pourrait constituer un point de rupture pour le climat à l'échelle mondiale, met en garde Suzanne Page, professeure de géographie physique à l'université de Leicester au Royaume-Uni. Des militants écologistes, notamment de Greenpeace, sont allés à la rencontre des Congolais vivant sur les parcelles concernées. Ils seraient hostiles au forage et prêts à manifester leur désapprobation. Mais le contexte politique local est plus complexe que cela. Car si la vente des blocs pétroliers s'annonce extrêmement rentable, seule une poignée d'individus bénéficieront des retombées économiques qui n'atténueront pas la pauvreté. D'autres pays alentours ont déjà suivi cette voie. L'Angola, le Nigeria et la Guinée équatoriale, mais ne vivent pas la même situation de guérilla locale. Et en s'inspirant du modèle de ses voisins, la RDC pourrait se retrouver prise au piège de ce que certains surnomment la malédiction du pétrole. L'exploitation des gisements ne profiterait pas aux Congolais et l'économie resterait exsangue. Au Nigeria, par exemple, le pétrole est le pilier de l'économie nationale, mais sa production provoque également des fuites d'hydrocarbures aux conséquences dévastatrices et creuse les inégalités. En Guinée équatoriale, la majeure partie de la population vit sous le seuil de pauvreté et ne tire aucun bénéfice des vastes réserves pétrolières du pays. Kinshasa a longuement réfléchi avant de donner son feu vert à de nouveaux forages, assurent les représentants du gouvernement, mais cette décision ne fait visiblement pas l'unanimité. Il faut préciser que depuis la rédaction de cet article sur Courrier International, une partie des permis a déjà été attribuée et une partie de ces permis se trouve dans les parcs nationaux, notamment le parc de Virunga, dont un excellent documentaire est disponible sur la plateforme Netflix, qui parle des gorilles et également de la cohabitation entre les gorilles et les habitants. Cette même zone est la zone en proie au conflit entre le M23 et l'armée régulière congolaise, mais aussi avec de nombreux autres groupes armés. Et il n'y a absolument pas que le pétrole et le gaz qui sont en jeu. Mais le bois est également une ressource extrêmement précieuse dans la région et en quantité. Le bois est, comme je le disais précédemment dans cette émission, une quantité incroyable de minerais.
Pour la poquité, pour qu'il t'occupe, c'est où t'as cassé la bouche. Pour la peso bongo poni kitoko yo bosa ba bien fait na manyo soye.
En République démocratique du Congo, l'expansion des mines industrielles, par exemple de cobalt et de cuivre, a entraîné l'expulsion forcée de populations entières et d'autres graves atteintes aux droits humains, notamment des agressions sexuelles, des incendies volontaires et des violences. Dans un rapport intitulé « Alimenter le changement ou le statu quo », Amnesty International et l'Initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, une organisation basée en RDC, démontrent que la course à l'expansion des opérations minières d'entreprises multinationales a entraîné l'expulsion forcée de populations de leurs habitations et de leurs champs. Les expulsions forcées menées lorsque des entreprises cherchent à agrandir des mines industrielles de cuivre et de cobalt détruisent des vies et doivent cesser immédiatement, a déclaré la secrétaire générale d'Amnesty International. L'ONG reconnaît l'importance cruciale des batteries rechargeables dans la transition énergétique pour mettre fin à la dépendance aux énergies fossiles. Cependant, la justice climatique exige une transition juste. Décarboner l'économie mondiale ne doit pas engendrer de nouvelles violations des droits humains. La population de la RDC a subi une exploitation considérable et de graves atteintes aux droits humains pendant la période coloniale et post-coloniale. Ces droits continuent d'être sacrifiés alors que les richesses qui l'entourent lui sont confisquées. La demande croissante de technologies fondées sur une énergie dite propre a entraîné une demande proportionnelle de certains métaux, notamment le cuivre et le cobalt, deux métaux essentiels à la fabrication des batteries lithium-ion. Ces batteries sont utilisées pour alimenter un vaste éventail d'appareils électroniques, vous en avez peut-être chez vous, mais aussi les véhicules électriques, qu'il faut avoir maintenant, les téléphones portables. La RDC possède la plus grande réserve de cobalt et la 7e réserve de cuivre au monde. Plus de 13 kg de cobalt sont nécessaires pour produire la batterie d'un véhicule électrique moyen. Environ 7 grammes sont nécessaires à celle d'un téléphone portable. La demande de cobalt, qui a triplé depuis 2010, devrait atteindre 222 000 tonnes d'ici 2025. L'un des auteurs de ce rapport déclare: des personnes sont expulsées de force ou victimes de menaces et d'actes d'intimidation pour les forcer à quitter leur domicile ou encore poussées par la tromperie et accepter des accords d'indemnisation dérisoires. Bien souvent, il n'existe aucun mécanisme de plainte, d'obligation de rendre des comptes ou d'accès à la justice. Le sous-sol de la RDC est si riche, ces dernières années, des nouveaux acteurs comme des groupes chinois ou des intermédiaires émiratis sont aussi venus dans le secteur minier. Ils ont investi plusieurs milliards de dollars et pourtant cette manne ne retombe vraiment pas dans l'économie congolaise, dans les mains des gens. Le pays n'arrive pas à sortir de la pauvreté. Plus de 70% des Congolais vivent aujourd'hui avec moins de 2 dollars par jour. Mais depuis l'arrivée des premiers Européens dans cet immense pays d'Afrique centrale de 2,3 millions de kilomètres carrés, le sous-sol congolais reste toujours un objet de convoitise. Plus de 60 ans après l'indépendance du pays, le secteur minier est aujourd'hui toujours aux mains des étrangers et l'État congolais ne touche pas les dividendes de ce secteur minier, de cette richesse qui de fait n'est pas redistribuée vers la population. Certains de ces métaux sont stratégiques pour l'économie mondiale, comme on en a parlé plus tôt, et notamment pour les énergies renouvelables, pour le pétrole et pour les nouvelles technologies. La cassiterite et le coltan, eux, servent à la production des écrans pour les téléphones et ordinateurs portables. Si vous écoutez cette émission de radio depuis votre ordinateur portable, par exemple, réfléchissez aux matériaux qui permettent de continuer d'écouter. Si vous pouvez utiliser votre téléphone, votre smartphone, c'est grâce à ce minerai appelé coltan qui est utilisé dans les appareils électroniques compacts. Environ 60% des réserves mondiales de coltan se trouvent en République démocratique du Congo, sûrement plus même, et la plupart des gisements proviennent de cet endroit qu'on appelle le Kivu et le Nord Kivu. Aujourd'hui, les exportations de minerais représentent plus de 90% des exportations du pays et plus de la moitié partent à destination de la Chine. On peut accuser la Chine si on veut, mais on est à l'autre bout de la chaîne, puisque d'où vient ce qu'on utilise ? Il y a sur place des géants de l'industrie et notamment les grands opérateurs à la base étaient belges suite à la colonisation par le roi de la Belgique. Et puis il y a eu l'Europe en grande majorité et aujourd'hui il y a un peu de tout et on trouve notamment des mines artisanales dans les zones de conflit dans l'est du pays, donc je vous disais au nord et au sud Kivu. Ces minerais donc financent les groupes armés présents et entretiennent ce conflit sans fin. Je cite un chercheur qui travaille particulièrement sur la question de l'extractivisme qui s'appelle Philippe Chalmin et qui dit « Rares sont les pays qui réussissent à éviter la malédiction des matières premières. Ceux qui ont réussi ont fait en sorte de dissocier les revenus tirés des ressources des matières premières des revenus de l'État. C'est ce qu'a fait en Afrique un pays comme le Botswana qui a créé un fonds en faveur des générations futures alimenté par les ressources du diamant. » Bon, le diamant, c'est une vraie merde. C'est en grande partie des enfants qui peuvent travailler dans ces mines. Et donc, c'est la vie des gosses derrière qu'on se met au doigt. J'ai pas bien encore saisi l'idée. Et un dernier problème que nous n'avons pas abordé avec la question de l'extractivisme, c'est évidemment la pollution de l'eau, la pollution des routes, à la déforestation, la pollution de l'air. Puisque plus le rythme d'exploitation s'accroît, et plus la pollution est importante. Encore une fois, ce sont les populations locales qui sont en première ligne. C'est déjà la fin de ce billet d'Afrique sur la RDC, une situation très complexe qui, vous l'aurez compris, mêle des problèmes régionaux interethniques dus aux tensions du passé et surtout des enjeux économiques colossaux dus à l'exploitation minière. Je vous quitte en musique avec de la rumba congolaise, une musique qui est entrée il y a 2 ans au patrimoine immatériel de l'UNESCO, une musique pleine d'histoire, allez vous renseigner, ça vaut le coup. Je vous laisse avec un titre phare qui s'appelle Marie-Louise. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau billet d'Afrique sur une nouvelle question coloniale et d'ici là, portez-vous bien.
Abidjan. na Louise, Louise, na ko balase, Louise, na ko tila ye bokilo alobi, Louise. Wendo solo wendo e, o wana konde baka wendo, wenda kimi biso kala kala e, wenda komi kisangani e, bebo yo mama le kisani. Yeah.